Bienvenue sur le podcast Les Cousins Théologiens.
Bienvenue dans Les Cousins Théologiens. Je suis une nouvelle fois accompagné de mon cher Benjamin. Comment vas-tu, Ben ?
Salut Max, écoute, ça va bien. Il pleut à Bruxelles, donc comme d'habitude, tout va bien.
Bah, il pleut aussi par ici. Hein.
Ah bah voilà, on est pas très loin.
Mais bon, au moins, il ne gèle plus.
Ouais, c'est ça.
C'est agréable.
Exactement.
Alors, on est en période de bilan, à la fois de l'année écoulée et de projet pour l'année qui vient. J'espère, Benjamin, que tu as fait toutes les BA que tu voulais faire pour l'année écoulée, que ton stock de justice est plein et que du coup tu es ta conscience est paisible devant Dieu, que tu te sais accepté par tes œuvres.
C'est ça, mais dis Maxime, ta théologie a bien changé là en une année. Mais l'année 2022 était bien chargée effectivement pour moi. Je me suis marié en 2022, donc je ne sais pas si ça compte comme une belle œuvre, comme une bonne action, mais en tout cas c'est fait.
Excellent, excellent. Comme vous l'avez compris, on aimerait parler bonnes œuvres dans ce podcast, parler bonnes œuvres, salut, un sujet qui est peut-être évoqué assez souvent finalement dans nos milieux, mais on craint parfois que ça ne soit invoqué que sur le thème de la négative, c'est-à-dire ce que nos bonnes œuvres ne sont pas, ce que l'on ne doit surtout pas croire au sujet de nos bonnes œuvres, mais on aimerait dans ce podcast en parler un peu plus positivement. Qu'est-ce que ça t'évoque peut-être, déjà ce que je mentionnais, Benjamin, sur le fait que nos bonnes œuvres ne nous sauvent pas, qu'est-ce qu'on veut dire par là ?
Oui, alors c'est une des choses qu'il faut dire, c'est que c'est vrai, on a raison de mettre l'accent là-dessus, et c'est ce qui distingue la théologie protestante en tant que chrétien, ou même le christianisme tel que la Bible le présente, dit du début à la fin que nos œuvres ne sont pas ce qui nous rend acceptables vis-à-vis de Dieu, ou qu'en tout cas les œuvres que l'on produit par nous-mêmes ne sont pas ce qui pourrait nettoyer notre cœur qui est pécheur et amener Dieu à pardonner les offenses qu'on a faites. Comme je le dis parfois, le bien que l'on pourrait faire ne pourra pas effacer le mal que l'on a déjà fait. C'est une règle de justice et ce n'est pas comme ça que le salut fonctionne. Alors il y a un aspect où il faudrait dire, et on va y arriver plus tard, mais au final, il y a peu de bien et il n'y a même pas de bien intrinsèque qu'on peut faire sans être chrétien, sans être régénéré, mais ça on pourra y revenir après. Mais surtout, le bien même qu'on pourrait faire n'est pas pris en compte quand Dieu nous déclare juste, quand Dieu nous justifie. On a parlé à plusieurs reprises dans ce podcast de la justification, je pense qu'on a même fait un épisode là-dessus. Mais la lettre aux Romains, par exemple, est claire là-dessus. En fait, c'était en décembre, je pense qu'on a fait un épisode le mois dernier. Pas le mois dernier
sur Romains,
on enregistre,
oui.
Mais le mois dernier quand vous l'écoutez, sur la lettre aux Romains. Et dans Romains 4, par exemple, il est dit « Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier. Mais devant Dieu, il n'est pas ainsi. En effet, que dit l'Écriture ? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut compté comme justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est compté non comme une grâce, mais comme un dû. Quant à celui qui ne fait pas d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est comptée comme justice. De même, David proclame le bonheur de l'homme au compte de qui Dieu met la justice sans œuvre. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. » Donc j'ai l'impression que c'est vraiment hyper clair la justice que Dieu nous donne ne dépend pas de nos œuvres. David lui-même proclame le bonheur de l'homme au compte de qui Dieu met la justice sans œuvre. Quand Dieu nous déclare juste, quand Dieu nous accepte, nous pardonne de nos péchés, de nous régénère, c'est aucunement en conséquence du bien que l'on aurait pu accomplir, que l'on aurait fait, ou d'une justice qui vient de nous, qui est intrinsèque. Mais c'est premièrement en raison de sa grâce imméritée, d'une faveur imméritée de sa part. Mais deuxièmement, et ça la lettre aux Romains le montre, c'est en raison des œuvres, mais pas de nous, mais de Jésus-Christ. Donc du bien que Jésus a accompli, de la justice parfaite, de la vie parfaite que Jésus a vécue. Oui, dans un sens, on pourrait dire on est sauvé par les œuvres, mais pas par nos œuvres à nous, par les œuvres de Jésus-Christ. Et c'est seulement ça qui rentre en compte dans ce processus, dans ce verdict que Dieu déclare. Et on voit dans Romains 5, et je te laisse réagir après ça, Maxime, le verset 1, le verset qu'on apprécie tous les deux de manière très proche. « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Je pense qu'on avait déjà évoqué, Maxime, que la traduction en second 21 est un peu malheureuse là-dessus, qui dit « déclarer juste sur la base de la foi ». Non, en fait, c'est littéralement par la foi. C'est pas la foi qui est la base de notre justification. La foi en elle-même ne nous sauve pas, mais c'est la foi qu'on place en Christ C'est Christ et son œuvre à la croix et ses bonnes œuvres qu'il a accomplies en notre faveur qui sont la base de ce qui nous déclare juste. Et donc on a raison de dire que nos belles œuvres ne nous sauvent pas.
Je trouve que la métaphore du salaire et de la grâce que Paul met en contraste éclaircit vraiment la manière dont on doit comprendre cela. Un salaire, c'est assez clair, tu as fait un travail, donc à la fin du mois ou à la fin de la journée, comme à l'époque, tu reçois ce que mérite ton travail. Et là, on voit vraiment qu'il y a un décalage, une discordance entre ce qu'on fait et ce qu'on obtient. Donc ça ne peut pas être un salaire. Et c'est le fondement que Paul donne d'ailleurs en Éphésiens 2 pour justifier le fait qu'on ne peut pas se vanter. Si c'était un salaire, ben, on peut se vanter. Je n'ai que ce que je mérite. Après tout, voilà, Dieu me donne tout cela, mais bon, j'ai travaillé pour l'avoir. On peut se vanter d'un salaire, on ne peut pas se vanter d'un cadeau. Donc tout ce vocabulaire autour de la justification, sans parler du vocabulaire de la justification lui-même, celui du salaire, de la grâce, etc., éclaire beaucoup ce que la justification est et nous évite de mal le comprendre. Je pense qu'un sujet sur lequel on se rejoindra aussi quant aux alliances, c'est le fait que dans les alliances dans la Bible, il y a des représentants. Et que les personnes qui sont sous ce représentant sont traitées conformément à ce représentant. Quand Adam a péché, toute sa descendance chute avec lui. Et c'est vraiment comme ça qu'on doit voir le Christ comme notre nouvel Adam, le nouveau grand représentant de l'humanité. Et tu fais vraiment bien de préciser qu'on n'est pas à proprement parler sauvé par notre foi. Comme si elle-même avait. C'était quelque chose de tellement grand, tellement beau aux yeux de Dieu que ça valait comme si on avait accompli toute la loi. Mais c'est parce qu'on place notre foi en Christ. Vraiment, la Bible répète ça, ce n'est pas une foi indéfinie, c'est vraiment la foi en Christ qui sauve, parce qu'elle est un moyen d'être unie à lui. Et même quand cet épisode auquel se réfère Paul arrive à Abraham, qu'il est justifié par la foi, Dieu vient de lui promettre sa descendance, qui est le Christ, comme nous dit Galates. Donc dès l'Ancien Testament, la justification par la foi était par la foi en quelque chose de très concret, qui était la promesse du Messie à venir, qui justifierait.
C'est ça. Et non, tout à fait. Et si on creuse plus loin que ça, c'est insensé de penser que nos belles œuvres pourraient nous sauver ou nous justifier devant Dieu, parce que non seulement, ça on peut creuser, enfin, dès que tu veux, mais la question de savoir est-ce que nos belles œuvres qui viennent à cœur régénéré sont réellement belles, mais plus que ça, c'est que même si on qualifierait ça de belles œuvres ou d'actions louables sur un certain aspect, elles sont faites dans le contexte d'un cœur qui est rebelle contre Dieu et dans un sens d'une mer de péché qui jaillisse de notre cœur vis-à-vis de Dieu. Et c'est là où la grâce, ça met en avant à quel point la grâce est merveilleuse. C'est pas seulement que on n'a rien fait pour le mériter, on n'a pas travaillé pour recevoir ce que Dieu nous donne, c'est pas un salaire. Mais c'est plus que ça, c'est qu'on a tout fait pour ne pas le mériter. On a vécu dans l'indifférence vis-à-vis de Dieu, dans la rébellion, dans le péché, que ça soit d'une manière externe, en se rebellant contre Dieu et contre ses commandements, en vivant dans la débauche ou toutes sortes de choses, que ça soit d'une manière très pieuse ou religieuse, en apparence, mais d'une manière qui rejette quand même Dieu et qui est un cœur qui est égoïste et qui est contraire à Dieu. Et donc c'est non seulement, oui, on n'a rien fait pour le mériter, on n'a pas travaillé pour ça, mais aussi, il y avait toutes les raisons que Dieu aurait eues de ne pas nous accepter et nous donner ce qu'il nous donne.
Ouais, tu fais bien de mentionner ça, parce que il y avait le passage que j'aurais aimé qu'on aborde d'Éphésiens 2:11, qui dit que nous avons été créés pour de bonnes œuvres. Autrement dit, c'est uniquement qu'on a été créé en Jésus-Christ que l'on peut commencer à marcher dans de bonnes œuvres. Auparavant, il ne s'agit pas de nier ou de mépriser tout le bien que pourraient faire les non-croyants autour de nous, mais de réaliser que devant Dieu, ces œuvres-là ne découlent pas d'un cœur pur. Il y a un passage des Proverbes qui dit que même la prière des méchants est en horreur à l'Éternel. Pourtant, la prière, on pourrait dire, c'est encore mieux que de servir son prochain, c'est une action de piété vis-à-vis de Dieu. Donc ça implique de croire qu'il existe, etc. Mais même la prière du méchant n'est pas agréable à Dieu. Parce qu'elle découle d'un cœur mauvais. Esaïe nous dit que nos bonnes œuvres sont comme des vêtements souillés, et je pense que ça s'applique en particulier aux œuvres des personnes qui ne sont pas régénérées. Elles sont un vêtement souillé parce qu'elles sont entachées de péché, de mauvaises intentions, de cœurs partagés. Et ce n'est pas pour dire, je pense que tous les chrétiens en sont conscients, que nos œuvres après notre conversion sont parfaites ou pures. Tous les grands saints le confesseraient, tous les chrétiens qui ont traversé l'histoire. Et puis on voit dans le Nouveau Testament plein de textes qui nous évoquent ce fait, notamment 1 Jean 1 et 2, où il dit que si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur. Et il parle bien là à des croyants. Donc pourtant, Paul nous dit de marcher dans de bonnes œuvres. Et quand on regarde nos bonnes œuvres, même nos bonnes intentions, parfois quand on se sonde, on se rend compte que en fait, là on avait des intentions impures, là on avait un cœur partagé, là oui ça paraît bien, mais est-ce qu'il n'y avait pas un peu d'orgueil, etc. Quand on se sonde, on se rend compte que même nos bonnes œuvres sont entachées. Dans quelle mesure on doit mettre en balance, en équilibre, ces affirmations que on demeure indigne même après que la grâce de Dieu ait commencé à croître en nous. Et dans quelle mesure on doit considérer que nos œuvres sont bonnes? Qu'est-ce que tu dirais à ce sujet?
Ouais, c'est une bonne question. Je dirais que là, il y a plusieurs éléments à mettre en avant. D'abord, tu as raison de mentionner comment le fait qu'avant la régénération, même ce qu'on pourrait qualifier de belles œuvres, en fait, n'est pas quelque chose qui est fondamentalement bon. Et ça, on le voit si on regarde, on pense à toutes les religions qui mettent en avant le fait que voilà, il faut faire du bien pour pouvoir être accepté par Dieu, pour pouvoir qu'à la fin des temps, la balance du bien qu'on a fait renverse celle du mal qu'on a fait. Bah, si on y pense, au final, c'est vachement égoïste et ces soi-disant belles œuvres ne sont pas si belles que ça parce que la motivation à faire le bien, c'est pas l'amour du bien, c'est pas l'amour des autres, c'est pas l'amour de Dieu, mais c'est l'amour de soi-même. C'est pour me sauver la peau. C'est égoïste. Et donc ça, ce serait une des distinctions où après la régénération, c'est-à-dire la nouvelle naissance, après être devenu chrétien, on fait ces choses-là, peut-être pas de manière entièrement, avec des motivations qui sont entièrement pures, et en fait jamais avec des motivations qui sont entièrement pures, mais avec une motivation fondamentale qui est là et qui est bonne, de vouloir plaire à Dieu, de vouloir, d'avoir connu un changement que la grâce a produit, où on déteste le péché, où on rejette le péché et où on veut aimer le bien. Et ça, on le voit avec l'attitude qu'on a vis-à-vis du péché entre avant la conversion et après la conversion. On est attristé quand on pêche après la conversion. On ne se réjouit plus du péché. Avant, on ne réalisait même pas qu'on péchait. On ne réalisait même pas qu'on était en train de faire le mal. On se réjouissait de cela. Mais après la conversion, on a une réelle contrition ou attitude de repentance vis-à-vis du péché. Donc je dirais que d'abord, notre motivation fondamentale a changé. Et c'est ça. Deuxièmement, qui plaît à Dieu et qui est agréable au Seigneur, de voir des enfants qui veulent marcher dans la vérité, même s'ils ne sont pas parfaits, même s'ils ne font pas les fautes, ne font pas le bien à 100% comme ils devraient le faire. Et là, il y avait Kevin DeYoung qui avait dans son livre « La faille dans notre sainteté », un très bon livre sur la sanctification, donc c'est-à-dire la croissance dans la sainteté, de lutter contre le péché, de devenir plus ressemblant à Jésus. Il utilise une illustration qui est imparfaite comme toutes les illustrations, mais il dit c'est un peu le bien qu'on fait en tant que chrétien, comme un enfant qui amènerait un dessin à ses parents. Quand le fils de Maxime lui amène un dessin, Maxime ne va pas lui jeter à la figure en disant « Mais qu'est-ce que tu as fait? Regarde, tu n'as pas colorié droit, tu dépasses, tu n'as pas utilisé les bonnes couleurs, mais tu n'as rien compris. » Non, en fait, Maxime serait touché, n'importe quel père serait touché, on imagine, on espère, par l'effort que son enfant a fait et parce que c'est ce qu'il a pu produire de mieux selon son niveau, selon là où il en est. Et c'est un peu, c'est une illustration imparfaite, mais dans la vie chrétienne, où de réaliser, ça nous aide à réaliser comment Dieu se réjouit du bien que l'on fait, même s'il n'est pas parfait. Que Dieu a un réel plaisir et une réelle joie dans cela. Et le dernier élément que je mettrai en avant, et je te laisse réagir ensuite Maxime, mais c'est que non seulement ça, mais aussi tout cela est couvert par la justice de Christ, et qu'on est vu au travers du prisme de Jésus-Christ en quelque sorte, et que quand Dieu nous voit, il voit Jésus-Christ, sa sainteté parfaite, sa justice parfaite. Parce que, comme tu l'as bien expliqué, on a un représentant, on est sous couvert de Christ. Donc voilà quelques éléments. Je ne sais pas si toi, tu compléterais.
Oui, je pense, comme tu le dis, qu'en tant que protestant, on est conscient, en tout cas, on devrait l'être, et j'espère vraiment que vous qui nous écoutez le son, qu'il y a une justice qui nous est imputée, c'est-à-dire une justice qu'on n'a pas accomplie, mais que Dieu porte gracieusement à notre compte à cause de ce que Jésus a fait. Pas une justice qui sort de nulle part, une justice que Jésus a concrètement accomplie dans l'histoire, des péchés qu'il a concrètement portés sur la croix, il a vraiment été puni, et il a vraiment marché d'une manière juste, donc c'est pas une justice imaginaire, simplement Dieu aurait décidé, tiens, toi je vais te déclarer juste même si tu es pas juste, et il y a un fondement réel. Néanmoins, ce n'est pas tout ce que la Bible nous dit au sujet de la justice. Elle nous dit aussi que Dieu met en nous une vie nouvelle qui veut grandir dans la justice, qui veut croître, et que nos bonnes œuvres, celles qui sont produites à partir d'un cœur régénéré, sont vraiment bonnes, elles contribuent vraiment à nous faire grandir dans la justice et elles sont vraiment agréables aux yeux de Dieu. Et j'aimerais vous lire un extrait et après je vais essayer d'expliquer un peu s'il y a des sections plus compliquées, mais un extrait d'un théologien qui s'appelle Jérôme Zanchi qui a écrit peu de temps après la réforme où il dit « Or, pour éviter que quelqu'un ne pense que nous nous forgeons une certaine justice imaginaire qui n'a ni fondement ni force en nous, nous répéterons encore une fois ce que nous avons déjà fait profession. » D'abord, que cette foi par laquelle nous disons que nous sommes justifiés est une foi vivante, qui agit par l'amour. Ensuite, que Dieu ne nous justifie pas seulement en pardonnant nos péchés et en nous imputant la justice du Christ, mais qu'il nous rend aussi participants de sa nature divine, qu'il nous régénère, nous affine, nous sanctifie, nous donne une justice inhérente et nous rend conformes à l'image de son Fils. Et cette justice commencée en nous, c'est-à-dire cette justice inhérente dans laquelle le croyant commence à grandir, cette justice commencée en nous est un témoignage manifeste de cette autre justice vraie et parfaite que nous avons dans le Christ seul. Et nous confessons que toutes deux sont unies par le lien du même esprit, comme le dit l'apôtre. Et là, il cite un passage de Romains qui dit non seulement la grâce de Dieu, mais aussi le don de la grâce vient d'un seul homme, Jésus-Christ. Dieu nous a non seulement graciés, mais il a fait un don dans sa grâce d'un cœur nouveau. En effet, et là il fait un parallèle entre ce que je vous évoquais tout à l'heure, la situation d'Adam et la situation du Christ. En effet, ce n'est pas seulement la désobéissance d'Adam qui nous a été imputée, mais aussi la corruption de sa nature qui a coulé en nous. Donc en effet, non seulement on est coupable par Adam, mais on est aussi corrompu. De même, non seulement l'obéissance et la justice du Christ nous sont imputées à nous qui sommes greffés sur lui, mais aussi sa sainteté nous est réellement communiquée afin que nous soyons de nouvelles créatures justes et saintes en nous-mêmes adeptes des bonnes œuvres. Je trouve que c'est un paragraphe qui résume vraiment tout ce qu'on a essayé d'exprimer jusqu'à maintenant. Et je trouve ce parallèle avec Adam très éclairant. En Adam, on a non seulement hérité d'une culpabilité, mais aussi d'une nature mauvaise. De la même façon, en Christ, non seulement on hérite de la grâce, mais aussi du don de la grâce, d'une nouvelle nature, d'une régénération. Et c'est vraiment la Christ vit en moi, comme dit Paul. Non seulement Christ nous justifie, mais Christ ne reste pas extérieur à nous. Autrement, il ne nous justifierait pas. Il vient s'unir à nous, réellement. Sa justice vient réellement couler en nous. Et bien sûr, ce n'est pas sur la base de cette justice qui coule en nous qu'on est justifié, encore une fois, parce que en cette vie, ici-bas, cette justice qui a commencé en nous reste imparfaite. Et elle restera imparfaite même si elle croit, même s'il faut, lutter et persévérer dans les œuvres bonnes, elle reste imparfaite ici-bas, mais elle est réelle quand même. Il y a un vrai changement qui s'est produit, il y a une vraie différence entre les croyants et les non-croyants pour ce qui est de leur vie, de leur cœur, de leur volonté, de leurs bonnes œuvres.
C'est ça. Et c'est bien que tu dis ça, et c'est peut-être avec ça qu'on peut terminer. J'ai aucune idée du temps parce que j'ai pas le temps, mais en parlant du fait que ces bonnes œuvres, oui, on n'est pas sauvé par les bonnes œuvres, mais ce n'est jamais, et ça a peut-être été une mauvaise manière de le comprendre de certains mouvements en tant que chrétien évangélique, c'est jamais pour dire que les œuvres ne sont pas importantes et qu'il n'y a pas de bonnes œuvres. Non, en fait, comme tu le dis et comme tu le montres, et comme la parole, là où la parole est claire dessus, les belles œuvres vont nécessairement suivre. La vraie foi, la foi sincère, c'est Jacques II, c'est là où on voit Jacques II, la foi sans les œuvres est morte, et donc la foi agissante, la foi vivante, dont les questions, elle va nécessairement produire des belles œuvres. Et j'ai été encouragé par cela récemment en étudiant Tite, la lettre à Tite, on a prêché là-dessus dans l'église ici à Bruxelles, de voir comment il y a un accent qui est mis sur les bonnes œuvres qui doivent nécessairement découler de la bonne doctrine. Quelqu'un qui a la bonne doctrine doit nécessairement vivre en conséquence et produire de belles œuvres. Par exemple, il est dit en Tite 3, verset 8, « Cette parole est certaine, en parlant de la parole de la grâce de Dieu, et je veux que tu insistes là-dessus, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à exceller dans les œuvres bonnes. » Ou dans Tite 2, au verset 12, il est question de la grâce de Dieu qui nous enseigne à renoncer à l'impiété, au désir de ce monde et à vivre dans le siècle présent d'une manière sensée, juste et pieuse. Donc la grâce produit un réel changement. Et les chrétiens doivent réellement produire des belles œuvres. Et c'est là où c'est pas mauvais et c'est nécessaire de parler des belles œuvres, de dire mais voilà comment les chrétiens doivent vivre. Et c'est d'ailleurs ce que Tite fait dans le chapitre 2, les 10 premiers versets du chapitre 2, si vous le lisez, c'est que des exhortations pratiques. Voilà comment les vieillards doivent se comporter, voilà comment les femmes âgées doivent se comporter, les jeunes gens, les jeunes femmes, etc. Et donc c'est pas être légaliste de dire ça, mais c'est totalement biblique de dire oui, on prêche la grâce dans toute sa splendeur, le don gratuit et immérité de Dieu, mais ensuite on prêche les œuvres qui découlent de cette grâce. Et il y a des œuvres qui doivent nécessairement découler de cette grâce. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles c'est totalement faux de dire qu'on peut accepter Jésus comme son sauveur sans le reconnaître comme son Seigneur. Non, en fait, si on reçoit la grâce de Dieu, si on reçoit la régénération, la nouvelle naissance, elle va nécessairement produire des bonnes œuvres. Elle va nécessairement entraîner un changement vis-à-vis du péché, d'attitude vis-à-vis du péché, une volonté de grandir dans la justice. Oui, imparfaite, avec des hauts et des bas, avec des luttes, avec une croissance en maturité avec le temps, mais il y a un changement qui se produit, et s'il n'y a pas ce changement, alors on est comme les faux enseignants en fait, de cette lettre à Tite, qui, au chapitre 1, verset 16, font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres. Ils sont odieux, rebelles et incapables d'aucune œuvre bonne. Donc ça, je pense, c'est une distinction importante.
Ouais, et en fait, si vous êtes à Jésus-Christ, ça doit sonner à vos oreilles comme une très bonne nouvelle. Non seulement Dieu a bien voulu vous pardonner, mais il fait bien plus que ça encore. Il vous pardonne pour de bonnes œuvres, il veut vous transformer. L'union que l'on a avec Jésus-Christ n'est pas simplement légale, c'est pas simplement un échange de comptes bancaires, c'est comparé à un vrai mariage, une vraie union. Christ se fait si intime à nous que non seulement il est notre représentant, mais sa vie coule vraiment en nous, et si vous êtes chrétien, vous allez changer. La justice va croître en vous. Donc finalement, c'est une bonne nouvelle et ça donne une portée plus grande encore à l'œuvre du Christ. Que Christ ne peut pas être découpé en sauveur et seigneur. Il sauve en établissant son règne sur nous. Il sauve en soumettant nos cœurs. Et il sauve en nous remettant nos péchés.
Amen. Amen.
Alors là, on a une puissante motivation pour adopter des bonnes résolutions pour cette année. Et pour reconsidérer l'année passée avec reconnaissance, non pas parce que, comme je le disais en début d'épisode, non pas parce que ces œuvres nous justifieraient ou nous donneraient une bonne conscience aux yeux de Dieu, mais parce qu'on peut se réjouir finalement de l'œuvre de Dieu en nous, se dire « Ah oui, Dieu m'a changé, Dieu fait grandir la justice en moi, il bénit mes faibles efforts pour en faire des grandes choses.
» Amen, ouais, exactement. Merci beaucoup, Maxime. On n'a pas travaillé de conclusion, mais ça, c'est la conclusion.
Voilà, ça tiendra lieu de conclusion.
Exactement. Merci beaucoup de suivre, les amis. On est reconnaissant de pouvoir continuer, avoir repris les podcasts Cousins Théologiens en septembre. On vise à continuer une fois par mois sur le site de La Rébellion. Merci à La Rébellion pour leur accueil et pour leur aide et la diffusion de ce podcast. Maxime, bon courage pour tes belles résolutions de 2023. Et puis, yes. On se voit le mois prochain pour un autre sujet.
Excellent. À bientôt.
Salut.